Matin. Ben oui.
Un excellent vendredi, on est avec vous jusqu'à 10h. Mon nom c'est Yann Marceau. Son nom, lui, c'est Jess. Et Max, yep. Max Larouche qui est là à la circulation, au karaoké.
On demande un rappel.
Qui a demandé ça?
Il y a plusieurs textos des gens qui disent que je suis surprenant.
Ah, je n'avais pas lu ça.
Donc, hey, voyons donc, là, vous êtes de mauvaise foi, il y en a plein.
Aller. Bravo Max, c'est surprenant en effet, je ne suis pas de mauvaise foi, je m'en vais les lire.
Pour en savoir plus, ce sera à 10h le spécial karaoké avec Max Larouche, c'est ça?
Exact.
Voilà, dans la circulation, qu'est-ce qui se passe?
C'est mollo, par contre, ce ne sera peut-être pas mollo en fin de semaine. Le pont de Québec qui va être fermé à la circulation automobile pour des travaux de ce soir 19h à demain 7h. Le boulevard Laurier qui va être fermé en direction ouest entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie de ce soir 20h à lundi 6h. Puis après ça, bien, il y a le Marathon Bénéva de Québec qui va recevoir pas moins de 17 000 coureurs au cours du week-end. Les participants qui se réunissent dans le coin du centre Vidéotron fait que ça, c'est sûr que ça va être à éviter si vous n'avez pas à faire là. Mais il y a quand même plusieurs secteurs qui vont être touchés. Des artères majeures qui vont être affectées. Là, on parle entre autres de Grande Allée Ouest, boulevard Wilfrid Hamel, chemin Saint-Louis, rue du Quai Saint-André, boulevard Champlain et d'autres axes centraux.
7 degrés sur Québec, plein soleil pour aujourd'hui. Ce soir, partiellement nuageux, minimum de 8. Mais aujourd'hui, on parle d'un max de 19 degrés. Demain, samedi, plein soleil, maximum de 23. Avec l'indice humidex, température ressentie possible de 26 degrés. Et dimanche, ce sera ensoleillé avec un max de 24. Donc, profitons-en. Un super de beau week-end qui est à nos portes. J'essaie toujours de trouver un moyen de le déranger parce que je sais qu'il travaille énormément, mais c'est mon expert préféré. C'est le spécialiste en sécurité numérique, Steve Waterhouse. Salut, Steve!
Bon matin Yannick, bon matin gang.
Très content de te jaser. Souvent, quand on se jase, c'est souvent pour des mauvaises nouvelles. Moi, j'étais un client chez Desjardins, puis quand j'ai lu la nouvelle ce matin sur le dossier des 50 000 Québécois qui refait surface sur le dark web, je me suis dit, tiens, on va demander à Steve qu'est-ce qu'il en pense de toute cette histoire-là. Est-ce que ça se peut que moi, qui est encore client chez Desjardins, mes informations soient encore sur le dark web à l'heure actuelle, alors que ça fait quand même quelques années, là, l'histoire des fraudes de données chez Desjardins?
Définitivement, Yannick, j'étais en train de commencer à dire, là, ça se peut que ça soit même pas vrai, cette histoire-là, parce que ça, il y a un premier stage d'information, excuse-moi, mais un amalgame d'informations qui est sorti le 14 septembre, et le 19, Desjardins a écrit à certaines compagnies qui avaient émis ça pour dire, hey, regardez, il y a de l'information Desjardins qui est publique, et moi, avec bien des sources, j'ai validé que c'était pas vrai. Fait que donc, j'ai écrit au journaliste qui a porté cette nouvelle-là hier pour comprendre lui ce qui a pris sa source parce que les liens dans le dark web pour aller voir cette information-là ne sont même plus en fonction. Fait que, à date, je ne sais pas où il y a eu cette information-là, mais quand il y a eu la semaine précédente le même genre de stratagème avec la Banque nationale, bien ça aussi, ça a été démenti que c'était un ramassis de n'importe quoi et que le bien fondé n'était pas là.
Donc, ce serait pour ça que Desjardins aurait demandé le retrait de la publication sur le site de surveillance ransomware.live après que le Coinbase Cartel eut allégué un incident de sécurité. Parce que moi, puis Jeff et Max, on se posait cette question-là. On s'est dit, attends un peu, là, si toute cette histoire-là est vraie, si Desjardins est intervenu en disant pour tenter de cacher quelque chose, moi, ça me dérangeait un peu de ce côté-là. Mais là, tu me rassures, tu me dis que possiblement que c'est même pas une information, là.
Ben, regarde, j'essaie de certifier. Je veux savoir comment est-ce que le journaliste et avec le spécialiste qui ont consulté où ont trouvé cette source-là. Mais à date, je ne peux pas mettre la main sur l'information que j'avais vue de 14 septembre. Maintenant, Desjardins ont un jeu à jouer. Je vais protéger, évidemment, le message populaire. Mais si c'est vrai que c'était de l'information de croche, il y avait tout intérêt à le faire retirer. Si c'était de la vraie information qui a coulé, ils ont tout intérêt aussi à le retirer. Mais peu importe, il faut savoir un peu c'est quoi la teneur. Fait que ta question est pleine et entière par rapport à faut-tu douter de que ça va arriver? Mais la réponse à ça, Yannick, c'est oui. Une fois que l'information, de peu importe la fuite, elle a coulé, est rendue sur le dark web, bien, ad vitam aeternam, avoir une réplication à quelque part, bien, elle va toujours être disponible d'une façon ou d'une autre.
Mais tous ceux qui ont passé dans la fuite de données, je fais partie de ceux-là, là, est-ce que leur information a disparu carrément du dark web ou c'est encore quelque part jusqu'à temps que quelqu'un tombe sur le dit fichier?
C'est mon point. Il y a des partiels partialité d'informations qui traînent à quelque part. Fait que, un moment donné, il y en a un qui l'a vu, le staff, il l'a downloadé, mais pour pas attirer l'attention des forces de l'ordre, il va cacher à quelque part, puis un moment donné, il va tenter le tout pour le tout, puis remettre ça en disponibilité, remettre ça en vente. Ça, c'est souvent le stratagème qu'on voit lorsque des surtout de l'information gouvernementale et financière qui est capturée comme ça. Ben, c'était toujours un peu le matamore si tu mets tout de suite ça en disponibilité alors que les enquêteurs sont tous yeux sur l'information qui traîne à gauche et à droite. Fait que, ben, souvent, on l'a vu 5 ans plus tard d'une fuite d'information. Il y a un amalgame qui est fait avec d'autres fuites. Et après ça, ça devient un produit, nécessairement, qui est amené sur le marché. Et là, après ça, il essaie de faire une pièce.
Ouais. Quand on veut faire disparaître de l'information là, qu'on détient chez nous, on veut pas que personne tombe là-dessus, on prend notre disque dur, puis on le brûle. Tiens, l'information va disparaître. Sur le dark web, est-ce qu'il y a des cracks informatiques qui agissent pour le bien? Est-ce que ces gens-là sont capables de faire disparaître de l'information? Ces informations-là qui sont quand même assez sensibles, c'est quand même des informations qui peuvent permettre aux gens de nous frauder, de se créer de nouvelles identités à notre nom. Est-ce qu'un crack informatique peut annuler complètement ce fichier-là qui donne accès à tous ces milliers de noms-là?
Ben, pour te donner raison, Yannick, oui, en un lieu, il va être capable de le faire. Mais il y a beaucoup d'automatismes dans le dark web qui en fait, comme je te disais tout à l'heure, des réplications
des copies,
un peu
partout. Ouais.
Ben oui, parce que les bandits, entre eux autres, là, ils n'ont pas d'impunité. Ils vont vouloir, à ce moment-là, monétiser. Puis après ça, dans la collectivité, « Hey, gros, garde, je te donne cette information-là que j'ai prise, amuse-toi avec, j'ai rien à faire, etc. » Fait que nous, on a l'impression qu'on va être capable d'arrêter ce phénomène-là, mais en réalité, ces automatismes-là font en sorte que l'information devient pérenne, elle est là à tout jamais. C'est pour ça que je te dis que n'importe quand, plus tard dans le futur, il y en a un qui va ressortir ce lapin-là du chapeau.
Puis les cartels de pirates informatiques, est-ce qu'on les traque à travers le monde? Et est-ce que c'est facile de les traquer pour la police?
C'est pas facile pour les traquer, mais ils sont identifiés. Parce qu'il arrive un méfait, il arrive à ce moment-là une fuite d'information. L'analyse des tactiques, techniques et procédures, elle est faite. Maintenant, le modus operandi peut être identifié, qu'est-ce qu'on appelle une signature, là, les agissements. Ben, ça ressemble, mettons, à un groupe russophone. OK? Mais il faut aller plus loin que c'est juste le look and feel de qu'est-ce qu'on voit, parce qu'ils peuvent avoir utilisé une connexion en provenance de Russie avec le code russe, mais en fait, c'est un groupe de militants nord-coréens. Fait que l'attribution de ces genres de situations-là n'est vraiment pas évidente. Fait que quand les compagnies qui enquêtent ou les agences du gouvernement qui enquêtent sur des vols d'informations, ben, ils prennent beaucoup de temps. Il y en a qui vont dire ils prennent trop le temps. Ouais, mais établir la preuve est vraiment pas facile. Puis les stratagèmes de masquer les traces, c'est une des premières conditions pour éviter de se faire pogner. Maintenant, une fois qu'ils pognent, des fois avec un haut niveau de certitude, tu sais, 95%, on sait que c'est tel groupe qui l'a fait, ou on l'apprend par des médias sociaux interposés que, ben, ils lèvent la main et ils disent c'est eux autres. Mais là encore, Yannick, il faut douter. Parce que bien souvent, il y a des cyberattaques dans le passé. Il y a des groupes militaires comme ça, ils ont levé la main. C'était même pas eux autres qui avaient fait l'attaque en question, mais ils ont profité du hype, donc de la publicité, pour se mousser et se mettre en avant-plan. Fait que il arrive une fuite d'information, une cyberattaque quelconque. Fait que là, ils vont prendre l'espace médiatique. Puis là, après ça, eux autres, ils se tapent dans les mains. Regarde, c'est nous autres, on est populaires. Tu sais. Ça finit de même.
Hier matin, on parlait du dossier de santé numérique, on parlait de
possibles
dépassements de coûts. Il y a des gens à la Coalition Avenir Québec qui ont été interviewés par des journalistes qui disaient « Non, dossier de santé numérique, tout va bien, il n'y a pas de problème. » Et finalement, en après-midi, pouf! Report du dossier santé numérique. Puis j'ai l'impression, Steve, qu'on a déjà oublié le dossier santé Québec qui était aussi un fiasco, là.
C'est des gros projets, Yannick. On va commencer comme ça. Puis, il y en a beaucoup qui me posaient la question hier quand la nouvelle est sortie. Puis moi, ça fait longtemps, je le dis, ces dossiers Santé Québec-là, de la façon que ça s'en va, c'est une prochaine commission. Là.
Ouais.
Ça ressemble à ça. Ceci dit, comme les projets de la SAC, encore là, j'ai une opinion encore à distance, me fait dire, ben attends un peu, là, ce que j'aurais aimé voir, Yannick, dans les dernières années, pour n'importe quel gros projet structurant comme ça du gouvernement, c'est d'avoir un tableau comparatif. Bon, ben on a été visiter 3-4 provinces au Canada, ils l'ont fait de même, voici comment ça s'est passé, voici comment ça a coûté. Après ça, aux États-Unis, en Europe, etc., peut-être aux États-Unis, plus en Europe. Fait que donc, y a-tu cette analyse-là? On l'a pas, cette information. C'est ça qui est dérangeant, parce que ailleurs, ils n'ont fait cette transformation numérique. Ils ont été capables de se donner des plateformes qui sont fonctionnelles, puis au quotidien, ça roule. Fait que pourquoi nous autres, on est plus fin qu'un autre, puis à trois fois, on entreprend des changements comme ça en profondeur, ça ne fonctionne pas, puis ça plante. Il y a quelque chose, faut faire le point là-dessus, là, ouais. Nécessairement. Parce que les prochains gros systèmes comme ça, là, on en a entendu parler aussi de la CNESST récemment, et ceux de Santé Québec. On a appris aussi, il y a quelques semaines, Yannick, je ne sais pas si tu te souviens, au ministère de la Sécurité publique, il y a eux autres aussi des systèmes d'information qui sont vieillots et qui doivent reprendre pour dire on les remet au goût du jour, à la modernité qu'ils ont besoin d'être. Et ça en est d'autres qui traînent. Puis, quand je dis ces exemples-là, c'est des systèmes qui sont essentiels. 24/7, il faut qu'ils soient toujours maintenus. C'est pas juste un système pour donner la température du fleuve Saint-Laurent dans le Bas-Saint-Laurent. C'est quelque chose de plus critique et essentiel. Fait que donc, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'il commence à monter plus de transparence, parce que c'est ça un changement fondamental, d'avoir une meilleure culture de la cybersécurité, ce que j'avais commencé en 2022, Yannick. Fait que tu sais, ça colle pas présentement, puis là, ben, on est en mode rattrapage, le feu est pris, fait que je ne sais pas qu'est-ce qui est le motivateur primaire pour avoir dit on arrête ça, c'est un facteur financier, ouais. Un facteur technologique, mais à date, c'est juste le facteur financier qui nous est présenté.
Steve Waterhouse, tu es un spécialiste en sécurité numérique, tu as été sous-ministre adjoint, tu t'es promené partout à travers le monde. Y a-tu juste au Québec où les dossiers du type coûtent des milliards et des milliards de dollars avec des dépassements de coûts à n'en plus finir, puis on réussit à peine à en arriver à un produit fini, sa clique étant le dernier produit fini, puis il reste encore beaucoup de travail à faire dessus de ce qu'on comprend. Juste ici où ça va mal d'un dossier informatique, parce que de parler qu'en 2025, puis je pense que mon chum Jeff va se joindre à moi, là, 2025, on fonctionne encore avec des fax dans le système de santé, c'est archaïque en sacrifice. Comment ça se passe ailleurs?
Bien, oublie pas, dans l'usage des fax, c'était aussi l'appareil judiciaire qui sont forts à l'utilisation des fax, malgré qu'ils ont, eux, l'utilisation de cartes à puce et de chiffrement un peu plus modernes. Mais ceci dit, ailleurs dans le monde, ça va quand même malin, qu'on dit. Et eux autres aussi, ils ont eu les embûches dans le passé. Cependant, ils ont des règles et des façons de travailler qui sont mauditement différentes ici. Et après ça, ben, ils mettent l'épaule à la roue, puis ils ont vraiment des attentes fermes. Puis après ça, il y a des livrables qui sont mesurés parce que les contrats sont décrits avec des pénalités. Tu sais, on m'a emmené après la commission Charbonneau, et là, on commençait à revoir les contrats, puis avec des pénalités si tu dépasses les coûts, si tu dépasses les délais, etc. Mais j'ai jamais vu un contrat informatique avec de telles clauses pour dire si tu dépasses le montant de 10 % que tu nous as soumis, bien là, tout ça, ça va être déduit, tu vas avoir des pénalités. On ne l'a pas vu, ça, à date. Fait que donc, les donneurs d'ouvrage, lorsqu'ils engagent ces compagnies-là, ben, le copinage qu'on a à travers la commission Galland fait en sorte qu'ils se donnent le droit de faire ça et tirer ça dans le temps, puis personne n'est coupable de rien. Il dit coupable, ça veut dire qu'il est responsable de rien. Fait que dans le monde, ailleurs, ben oui, ils ont avancé. Oui, eux autres aussi, ils ont commencé dans les années 70, les années 60, avec des systèmes d'information du temps, puis ils ont migré progressivement. Mais en Amérique du Nord, je te dirais, c'est là la partie la plus difficile à faire bouger. États-Unis comme Canada, je te donne des exemples faciles avec les systèmes de réservation pour les vols, c'est des vieilles machines encore, pareil comme l'assurance-emploi à Ottawa, pareil comme l'assurance chômage à Ottawa, c'est des systèmes de 50 et 60 ans, il n'y en a pas de farce. Ça, c'est le bureau du vérificateur général qui a remis ça en avant-plan en décembre 2023 dans son rapport. Et ça, c'est des problèmes qui sont pelletés en avant depuis 25-30 ans que c'est pas sexy politiquement parlant. Mais là, mec, ça craque puis ça pète. On a vu Phoenix, qu'est-ce que ça a fait. Imagine-toi ceux qui dépendent des chèques de pension de vieillesse puis qui dépendent de l'assurance chômage, qui n'ont plus rien qui leur est procuré. L'avarie que ça va faire, là, c'est incroyable.
Steve, outre changer notre façon de faire des contrats et tenter de rattraper le retard, qu'est-ce qu'on doit changer dans nos pratiques gouvernementales pour pas qu'on se retrouve avec, justement, des projets reportés comme Santé numérique hier?
Il faudra peut-être commencer à faire une prise de conscience puis dire qu'on a fait, comme société, une transformation numérique. On se fait obliger, forcer d'aller sur des portails en ligne pour consulter l'information que les instances gouvernementales nous poussent et en même temps les institutions financières. Tu sais, juste prendre ces deux volets-là. Si la partie politique, les décideurs de n'importe quelle organisation ne réalisent pas que ça faut que ça devienne plus haut dans l'échelle de priorité de décision, on est voué à l'échec constamment. C'est pour ça que je te parlais tantôt, Yannick, de changer la culture sur la cybersécurité. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de penser au quotidien puis cybersécurité constamment. Ça, c'est ma job à moi, c'est pas grave. Mm-hmm. Mais au moment donné, quand on dit on s'en va dans le numérique, bien, c'est all-in. On ne peut pas faire des demi-mesures comme on voit présentement parce que ça va toujours être dans le dallot et ça va être un éternel recommencement parce que tout le monde va justifier une autre priorité, il faut qu'il passe avant, puis on n'y consacrera pas tant effort et ressources financières pour l'accomplissement, pour le faire. Fait qu'à un moment donné, c'est des petits projets morcelés ensemble. Il faudra peut-être se donner le temps de faire. Ouais. Mais
est-ce qu'on a l'expertise, Steve, au gouvernement pour faire ça?
Ben, Jeff, il y en a. Je ne peux pas te dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais le problème, comme je présentais hier en conférence à Saint-Hyacinthe, pour que la vision d'en haut fasse suivre la vision d'en bas,
ouais.
Puis entre les deux, la gestion intermédiaire, il faut qu'elle fasse le lien entre la vision du leadership et après ça, dans l'exécution. C'est là que le bas blesse, parce que même les écoles de gestion, de peu importe les universités, sont encore avec des modes de gestion des années 60. Ils n'ont pas adopté la gestion du cyber-risque. La gestion de l'information moderne, elle n'est pas là. Puis je le dis depuis des années, ça ne colle pas nulle part.
Fait que la gouvernance, c'est vraiment un problème.
Ben, mais ça, puis j'en ai, comme disait Yannick, j'en ai des témoins de premier ordre. Fait que, M. Kerr, vous direz, les gens diront ce qu'ils voudront, mais il avait cette vision-là, puis il a essayé de l'implanter à tous ses collègues des ministres, puis dans le gouvernement, puis ça n'a pas collé. Puis M. Bélanger, qui a pris relève, lui aussi, il a de la misère à faire établir ça. Puis après ça, que collectivement, on avance avec cette affaire-là. Puis je rappelle, le ministère de la cybersécurité, c'est toujours le seul ministère au Canada. Les autres ont dit, ben, on va regarder ça, si ça plante, c'est pas bon, si ça marche pas, on embarque. Bien, l'Alberta a fait des démarches. L'Alberta a livré son identité numérique pour avoir une carte d'assurance maladie électronique comme physique, une carte de plastique, avant le Québec. Le Québec, il est arrivé quelque chose, bang, c'est arrêté ce projet-là, parce qu'en 2022, on était sur la ligne pour le livrer à la fin de l'année. Il est arrivé quelque chose, bang, l'Alberta, eux autres, ont passé en avant. Comme le Britannique, c'est les prochains, je suis pas mal certain, comme la Nouvelle-Écosse. Fait que eux, ils ont déjà des provisions en place, sont en train de le structurer pour en avoir eux aussi un ministère de la cybersécurité et du numérique. C'est une question de temps. Fait que c'est là qu'on a pris de l'avance, on a montré qu'on a un savoir-faire qui est avant-gardiste. Mais là, tout le monde est en train de laisser ça aller. On s'assied sur nos lauriers. Puis, on s'en vient en fin du peloton alors qu'on était en avant de la parade. Fait que c'est pour ça que je parle de vision, de m'emmener. Il faut l'entretenir, il faut l'amener. Puis, si tout le monde s'assied dessus, ça va finir dans l'oubli.
Quand on regarde ces projets-là à coût de milliards, des fois, c'est hallucinant, Steve.
Ben oui.
Toi, tu es spécialiste en cybersécurité et tu es capable de dire, bon, ben, pour faire telle application ou telle application, pour que ce soit étendu à la grosseur du gouvernement, faut parler tel ou tel langage. Dans le monde, il y a à peu près, quoi, 7000 langages différents, 7000 langues parlées. Au gouvernement du Québec, avec le nombre d'ordinateurs et de programmes qui sont tous, pour la plupart, différents, il y en a qui sont désuets, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que c'est ça qui complexifie la tâche quand on arrive avec des gros dossiers comme SACLIC, comme le truc de la santé là, qu'on parle ce matin, le DNS, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle.
DSN.
Le DSN. Ouais. Est-ce que c'est ça qui fait que c'est compliqué? On veut que tous les ordinateurs puissent se parler ensemble, même s'ils ne sont pas de la même famille et ils ne parlent pas de la même langue. On veut que tous les programmes puissent se parler ensemble, même s'ils ne sont pas de la même famille et ils parlent la même langue?
Oui, c'est un gros facteur qui rend le tout difficile. Rappelle-toi, je t'ai dit tantôt, qu'en Europe, ailleurs dans le monde, eux autres, ils ont fait le virage numérique, ça a été plus facile. Ici, en Amérique du Nord, on a commencé avec la technologie un peu plus tôt que le reste du monde et on est pogné avec ces monolithes historiques de vieux systèmes. Puis tu le dis bien, faut rendre ça compatible avec le reste. Tout le monde a en sens un peu, je vais donner cet exemple-là, Yannick, pour prouver mon point. Tout le monde a en sens l'Estonie, qui ont adopté eux autres la transformation numérique de la société, le vote électronique, etc. Mais la différence de qu'est-ce qu'on fait ici, c'est que il y a des pays comme ça dans le monde, là, ils ont parti de zéro parce qu'il n'y avait plus rien. L'Estonie, le post-ère soviétique, ils ont fait un reset sur le compteur, puis ils ont dit, hey, nous autres, on veut commencer dans la modernité, comment qu'on s'y prend? Bien, ils ont bâti leur gouvernance puis la façon de travailler en société avec une modernité qui a adopté et qui est mature aujourd'hui. Ils ont fait ce travail-là, puis tout a été numérisé en fonction que voici l'identité numérique va nous backer partout. Alors qu'ici, on essaie de tout faire en même temps, en parallèle de tout ce qui se fait. Une nation comme nos voisins du Sud, on dira ce qu'on voudra, c'est supposé d'être un moteur économique le plus puissant au monde. Ils n'ont pas plus avancé numériquement, eux autres, faire le vote électronique, l'identité numérique, pas plus que nous autres. Fait que donc, on a ces problèmes-là ici en Amérique du Nord de travailler avec les vieilles affaires. Les compagnies ont cette mentalité de garder ça en fonction pour avoir le retour sur l'investissement le plus fort possible. Mais ça ne tient pas la route. Fait que là, ils ne veulent pas investir. Tu sais, on entend parler, Yannick, là, les compagnies qui ont des milliards en profit, malgré qu'ils n'investissent pas à renouveler souvent des équipements, des systèmes d'information, des infrastructures de télécommunications. Et là, c'est vétus. Puis, c'est toujours, encore une fois, une philosophie de fix and failure, c'est-à-dire si ça brise, on l'arrangera, si ça marche, on laisse ça de main, on y touche pas.
Puis ma dernière question, puis je veux faire référence au fameux panier bleu là, qui était une page web avec un site transactionnel qui nous a coûté beaucoup trop cher. On peut
alors que c'est une simple commande Google.
Oui, il faut pas trop le dire, là. Ça va faire encore faire mal paraître le gouvernement. Mais,
ben ouais, mais Christy, c'est ça pareil.
Est-ce qu'on aurait pu faire autrement dans le dossier Saclic? Parce que là, le dossier Saclic qui se ramasse à la commission Galant, ça va faire en sorte que tous les dossiers informatiques qui impliquent de l'argent et des dépassements de coûts vont être au ralenti. Parce qu'avec le gouvernement et les intentions de vote, on peut dire que le gouvernement va être très, très fragile là, aux augmentations de coûts. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Exemple, dans le dossier Saclic, on peut-tu faire une page web qui est accessible par tout le monde, autant par les administrateurs que par les clients? On va juste sur cette page web-là qui est comme toutes les autres pages web et qui peut être transactionnelle. Qu'est-ce qui fait en sorte que le dossier Saclic, ça a été si long? Ça a demandé autant de gens pour travailler sur ce dossier-là, comparativement à une page web transactionnelle?
Bien, c'est par la complexité de tous les systèmes qu'il a fallu qu'ils considèrent à mettre ensemble, Yannick. Comme on disait tout à l'heure, ça date quand même de très longtemps. Okay. Et il y avait cette rénovation-là majeure.
Je comprends.
Et tous les langages, le parler ensemble, là, tu l'as dit, c'est quelque chose de compliqué. Mais une des erreurs, puis on le verra dans le rapport du juge Galant, je suis pas mal certain, ça, qu'est-ce que tu expliques d'avoir une transparence que le citoyen ou peu importe qui voit l'évolution de ces dossiers-là, qui ne travaillent pas en arrière du rideau seulement. Puis là, quand ça va mal, il nous arrive avec un constat dramatique. Bien, je crois que c'est là, quand je te disais que c'est un gage de transparence va donner le ton. Si on ne peut plus gêner à ce moment-là de dire, bien, ça a dérapé, on ne savait pas. Non, regarde, tu l'as publié à chaque semaine, tu sais, là. Fait que quand c'est des constats annuels, des fois, ça dérape trop loin.
Merci beaucoup pour ton temps, Steve.
N'importe quand.
Au revoir. Bye bye. Salut. Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité numérique, ex-sous-ministre adjoint qui nous parlait des deux vastes projets en santé numérique qui ont été arrêtés parce qu'il y a des dépassements de coûts, parce que le gouvernement commence à être fragile suite à la commission Galant et du dossier, fameux dossier aussi Desjardins qu'on parlait, Max, tantôt, des dossiers, des clients qui se seraient retrouvés sur le dark web. Ce que Steve Waterhouse mentionne, c'est qu'il a fait les recherches sur le dark web à savoir si toute cette histoire-là était vraie. Et finalement, ça s'est avéré qu'il n'a rien trouvé. Il a contacté le journaliste pour faire confirmer que c'est sûr, à savoir où est-ce qu'il avait pris ça, parce que lui, il considère qu'il n'y en a pas de ce dit dossier-là de 50 000 Québécois sur le dark web.
Mais dans ma tête, on dirait qu'une fois que c'est là, je vois pas comment ça peut quitter le dark web. Je conçois pas comment... des informations comme ça peuvent se retrouver entre des mains mal intentionnées, puis tout d'un coup, hop, tout est beau, finalement, tout est réglé, puis ces infos-là sont plus disponibles. J'ai de la misère à le concevoir.
Bien, comme Steve Waterhouse l'a mentionné, ils peuvent faire des copies. Tout le monde peut faire des copies. Tu aurais pu aller quand il y a eu la fameuse fuite Desjardins, là, tous les clients
Desjardins
qui étaient
passés là-dedans.
Exact.
Fait que c'est encore quelque part, c'est sûr.
C'est sûr et certain. Ça peut être dans ton ordinateur à toi, puis personne ne le saura probablement jamais. Puis là, dans 10 ans, tu vas dire, « Hey, je vais reprendre le numéro d'assurance sociale d'Audrey, mettons, ou de Jeff. » Puis là, je vais créer une fausse identité sur le web. Je vais me faire venir des cartes de crédit. On ne sera jamais à l'abri de ça. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Desjardins, on est protégé, de ce qu'on comprend. Puis là, il y a un recours collectif. Fait que d'après moi, Desjardins va s'arranger pour que jamais plus ça arrive, ça, qu'un petit chubby puisse rentrer dans une salle de serveur avec une clé USB puis retirer toutes ses informations.